avec Myriam Segal et Jeff Blanchette.
Il y a un sujet délicat sur lequel le gouvernement avance à pas feutrer. La question des mères porteuses. L'autre jour, Pascal Caron-Vézina a d'ailleurs fait une entrevue avec une femme qui porte un enfant pour un couple qu'elle connaît. Actuellement, c'est interdit d'être rémunéré pour le faire. Et même juste compenser pour des dépenses, t'as pas le droit. Le Canada fait partie des pays qui disent, garde, ce sera pas une activité commerciale de louer l'utérus d'une femme. Il y a des pays où c'est carrément interdit. Il y a des pays où c'est totalement permis, puis tu peux payer le montant que tu veux, puis louer l'utérus de la femme qui est volontaire sans problème, passer par une agence, etc. La Russie, les États-Unis en font partie de ces pays-là. Mm-hmm. Au Canada, on a décidé d'être comme prudent. Ça fait que là, au cours des, il y a une réglementation de Santé Canada qui va être adoptée bientôt et qui fait en sorte que les mères porteuses, d'abord, il va pouvoir y avoir un contrat. Et elles vont pouvoir être dédommagées pour leurs dépenses. Par exemple, tu dois mieux te nourrir durant que tu es enceinte.
Donc, tu peux avoir une prime. Tu peux négocier une prime avec les parents qui veulent l'enfant.
Ouais.
Puis dire que si tu veux que je mange du chou kale pendant 9 mois, ben paye.
C'est ça. Maintenant, il faut que ce soit des dépenses réelles qui sont investies. Il ne faut pas que ce soit « je te paye pour que tu manges ce que je te dis ». C'est pas ça. C'est pas une rémunération. C'est une compensation pour des dépenses réellement faites. Là, comment tu fais pour vérifier que le chou kale qui est dans le panier d'épicerie, il a bel et bien servi à femme enceinte? Regarde. Tu comprends-tu?
Mais actuellement, il peut y avoir un contrat ou pas?
Non. C'était interdit. Puis là, maintenant, ça devient permis. Puis permis de faire un...
Qu'il y a une transaction, un échange d'argent.
Oui,
mais... C'est pas un salaire.
Mais pour des compensations. Par exemple, les vêtements de maternité, tu avais le droit de le réclamer. D'un autre côté, Santé Canada met pas de plafond aux dépenses. Fait qu'en mettant pas de plafond, il y a plein de gens qui disent, ben, regarde, c'est sûr que les gens vont monnayer, tu sais, on va s'acheter des vêtements de maternité à la même place que Céline Dion, là, puis...
Ça va oublier, ça.
On va péter il va y avoir des rémunérations cachées, etc. Puis, il y a toutes sortes, effectivement, quand tu avances là-dedans. Et ce matin, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on devrait permettre qu'il y ait des agences?
Oui, c'est un prof de l'Université Laval qui pose la question dans la presse ce matin. Il est à l'École de travail social et de criminologie. Lui, il s'appelle Kevin Lavoie.
Et lui, il dit, est-ce qu'on devrait permettre qu'il y ait des agences? Par exemple, tu es une femme et tu es prête à prêter ton utérus à un couple infertile ou à un couple qui peut pas avoir d'enfant parce qu'il est gay. Bon, est-ce que ce serait correct qu'une agence recrute des femmes comme ça et loue les utérus de cette femme-là avec des contrats en bonne et due forme faits à des couples qui sont à la recherche d'eux?
Donc, il y aurait un entremetteur.
Est-ce que cet entremetteur peut être à but lucratif? Est-ce que, tu sais... Puis là, il y a une... Moi, je suis comme ambivalente là-dessus, parce que c'est pas un commerce comme les autres.
Mais c'est anormal qu'on n'ait pas... Ben, en fait, ça prend un contrat.
Alors là, il y a des firmes de juristes qui disent, bon, ben on va ouvrir également une compagnie ou une agence qui va permettre la rencontre, puis nous, on va faire le contrat juridique.
Parce qu'imagine, la mère porteuse, elle trouve cute, finalement, puis elle a pensé à ça pendant 9 mois, puis elle veut le garder. Il n'y a pas de contrat.
Ah, il faut qu'il y ait un contrat. Maintenant, c'est sûr que si on permet ça, il faut qu'il y ait un contrat en bonne et due forme. Mais les règles que Santé Canada émet sont comme vagues. Quelqu'un qui décide, comme celle qui a parlé à Pascal il y a 2 semaines, de le faire pour rendre service, elle peut être dédommagée pour certaines de ses dépenses, mais raisonnable, elle va être raisonnable. Mais ça ouvre aussi la porte à, regarde, je peux te dédommager pour tes dépenses, mais je vais te dédommager 3 fois plus, puis on va faire semblant que. Ou 4 fois plus, puis on va faire semblant que. Puis là, ça commence à être une pression financière pour pousser des femmes à louer leur utérus. Comprends-tu? L'idée, c'est la compensation.
Ouais.
La compensation ne permet pas de dire à une femme, OK, ben regarde, je vais faire un coup d'argent, mais...
Ça devient tellement lucratif que pour payer tes études, ben tu vas pouvoir, mettons, louer ton utérus.
C'est ça. Fait que là, on avance bien bizarrement, bien prudemment. Puis moi, je suis... je me dis, ce serait quand même pratique pour beaucoup de couples qu'il y ait une agence qui mette en relation les gens, les femmes qui sont prêtes à faire ça généreusement et non pas pour se pour faire un coup de cash, et les couples qui sont à la recherche de quelqu'un qui ne va pas les arnaquer.
Oui, qu'il y ait des règles, qu'il y ait un historique, que ce soit encadré, puis que ce soit facilitant d'avoir un entremetteur entre les deux qui a de l'expertise, qui a déjà fait ça avant, accompagné des gens.
Mais dans mon livre à moi, l'entremetteur en question, il ne faut pas qu'il soit à but lucratif.
Faut que ce soit une OBNL.
Faut que ce soit quelque chose, une vraie, là, pas une patente inventée pour payer un gros salaire à un directeur.
Ouais.
Hein, une vraie, là, un vrai organisme qui met vraiment en relation des gens qui ont, les uns qui ont une offre, les autres qui ont un besoin, là, et qui n'essayent pas de faire de l'argent sur le dos de ce monde-là. Mais on n'est pas rendu là. On est juste rendu à des compensations, et la façon dont Santé Canada le fait, c'est tellement vague que à peu près tous les excès sont permis.
Faut pas voir ça comme un encouragement non plus là, que le fédéral légifère. Moi, je pense que c'est juste une façon responsable d'encadrer quelque chose qui existe déjà.
C'est ça. Puis là, la question, c'est si la femme est compensée, est-ce que le couple géniteur peut dire ben là tu vas manger ce que je te dis de manger, puis tu vas, tu sais, pas non plus que ça devienne, qu'elle devienne l'esclave de ce couple là pendant les 9 mois de sa grossesse là.
Dans le cas dont tu parles avec la rencontre de Pascal, la mère porteuse connaissait le couple,
oui,
mais là ça pourrait être un cas où la mère porteuse n'a jamais rencontré le couple, on a un entremetteur entre les deux, un couple qui cherche une matrice, là, un utérus carrément, puis qui a choisi dans un catalogue.
Oui, mais tout ça est en train de se faire, puis ça suscite évidemment beaucoup de discussions. On trouve que le Canada avance pas vite là-dedans. D'un autre côté, en ne mettant pas de plafond aux dépenses qui peuvent être remboursées à une femme enceinte, à une femme qui accepte d'être enceinte pour un autre couple, on dit que Santé Canada permet tous les excès.
Oui.
Puis, la question des agences n'est toujours pas réglée.
Vois-tu un problème à ce qu'une femme loue son utérus comme ça?
Non, si elle le fait volontairement. Non. Si elle le fait sans pression, volontairement, et pas pour du fric, pas pour faire une passe de cash. Je ne vois aucun inconvénient à ça.
J'ai déjà vu des pubs circuler. Ça disait les joies de la grossesse sans la maternité. On le vendait de même. Comme c'était donc bien le fun d'être enceinte. Ben, j'ai parlé à une couple de femmes qui ont accouché récemment, là. C'est pas tout le temps le fun.
Non, il paraît. Non. Ben, t'es quand même dans une bulle. Tu sais, les hormones sont bien faites, là. T'es quand même, quand t'es enceinte, de mon souvenir, là, t'es quand même dans une espèce de bulle de bonheur euphorique. Ça, c'est tes hormones qui font ça. Puis, notamment, lors de l'accouchement, tu souffres le martyre, mais tu t'en rappelles pas. C'est-à-dire que tu te rappelles que tu as eu mal, mais on dirait que la douleur ne s'inscrit pas dans ta mémoire parce que tu dis pas « plus jamais je vais endurer ça ». Comprends-tu?
Sinon, il y aurait des enfants uniques partout.
C'est ça. Il y a quelque chose dans l'hormone féminine et dans la mémoire de la douleur. Il y a probablement un jeu qui se fait, qui fait en sorte que tu t'en rappelles, mais pas assez pour plus en faire.
Mais les féministes doivent capoter, là. J'ai pas lu de sortie ou de prise de position forcément là-dessus, là, mais d'un côté, tu dois avoir... C'est comme pour le voile. D'un côté, tu dois avoir l'équipe qui dit ben la femme peut disposer de son corps de la façon qu'elle veut. Et de l'autre côté, tu dois dire, il doit y avoir des féministes qui disent ça n'a aucun sens qu'une femme vende son corps comme ça à un couple qui veut un enfant.
Ben, c'est ça. C'est de la transaction commerciale n'est pas permise. Ce qui est permis, ce qui va être permis, c'est la compensation. Mais la transaction commerciale, là, je te donne 10 000 piastres, tu me fais un bébé, là, tu me portes un bébé, ça, c'est pas permis.
Toi, tu penses que ça arrive pas au Canada?
Oui, ça arrive.
Ça se fait,
ça arrive. C'est forcément, ça arrive
par
forcément.
Par en dessous, là, tu t'arranges.
Tout se fait par en dessous.
Par une couple de petits paiements, là.
Mais tout par en dessous, c'est dangereux parce que les chantages peuvent arriver.
Oui.
Les bris de contrat peuvent arriver, puis là, ton contrat, il valait rien. C'est périlleux, ce genre de choses-là. Ce qui se fait aussi, c'est des transactions avec les pays qui le permettent.
Oui.
Fait que là, t'es peut-être mieux de le permettre...
Que d'aller en Amérique latine.
Entre des gens honnêtes, de bonne foi, que de l'interdire à large comme on le faisait. Je trouve que les avancées prudentes sont quand même correctes. Mais il reste des questions, là, notamment la question des agences.
On pose aussi la question, comment fonctionnent les congés de maternité dans ce temps-là? C'est le couple qui s'occupe du bébé? Mais la mère a toujours bien porté un enfant pendant 9 mois.
Oui, mais là, il y a une adoption. Mon souvenir, c'est que quand tu as une adoption, tu as droit à un congé de maternité.
Mm-hmm.
Parce que c'est le fait d'avoir un enfant.
Mais la mère porteuse, elle, pour se remettre de la grossesse puis de l'accouchement...
J'imagine que ça fait partie des compensations.
Ça doit, elle doit se dealer des vacances sans solde au travail.
Je ne sais pas comment
ça... S'il y a un retrait préventif, il y a tellement de questions là-dedans, là.
Mais ça mériterait, je pense, qu'il y ait une espèce de discussion publique honnête et ouverte là-dessus, plutôt que des petits règlements qui passent à gauche, à droite, puis là, on ne le sait pas, puis on ne veut pas faire de pub parce qu'on ne veut pas que le phénomène se multiplie.
Ouais.
Dans le fond, on préférerait que ça reste sous-marin.
Marginal, ouais.
Ouais. Une grossesse, c'est loin d'être tout le temps cool, écrit quelqu'un. Martin fait référence à La Servante écarlate. J'ai pas regardé ça.
La Servante écarlate, c'est
pas l'histoire.
La série de Margaret Atwood, c'est inspiré du livre. C'est qu'en fait, les femmes sont plus capables de faire des enfants, ou la majorité d'entre elles, et celles qui ont encore la capacité de faire des enfants, ben, sont carrément kidnappées. On les amène du côté des États-Unis, où on les prend, on les retire de leur famille. Elles sont placées dans dans les maisons des chefs du gouvernement et des riches qui gouvernent les nouveaux États-Unis qui s'appellent Iliad. Puis leur job, c'est vraiment de se faire engrosser. Donc, elles se font violer à répétition jusqu'à temps qu'elles tombent enceintes. Puis une fois qu'elles tombent enceintes, ben là, c'est rendu le grand miracle de la vie qui enfin revient. C'est un peu la trame narrative de la série.
Puis on réussit à faire 3 saisons avec ça?
Ouais, j'ai regardé les 2 premières, la 3e, j'ai pas commencé encore, mais la première est excellente. C'est épeurant à regarder, mais c'est très bon.
Tu vois, il y en a plusieurs qui craignent que ça devienne de l'abus à un moment donné. Il y en a plusieurs qui disent, ben là, si quelqu'un est prêt à payer, qu'il paye.
Mm-hmm.
C'est un domaine dans lequel il y a autant de morale qu'il y a de personnes, j'ai l'impression.
Un peu comme dans le cas de l'avortement.
Sauf que... c'est pas tout à fait la même chose quand même.
Non, non, mais en termes de morale puis de droit de disposer de son corps.
C'est ça. J'ai d'ailleurs reçu une lettre d'un médecin qui est spécialisé dans les questions de planification familiale, d'avortement, etc.
Mm-hmm.
Et qui me dit que depuis 5 ans au Québec, il y a une baisse. Je savais qu'il y avait une baisse du nombre d'avortements, mais je pensais que c'était aussi la baisse du nombre de génitrices. Tu sais, il y a moins de femmes en âge de procréer, oui. Donc il y a forcément une baisse d'avortement. Bon. Mais il semble que la baisse soit plus sensible que ça, qu'il y a vraiment, dans toutes les classes d'âge, une baisse du nombre d'avortements au Québec, moins chez les femmes plus vieilles que chez les femmes plus jeunes. Les femmes plus jeunes, il y a vraiment une baisse spectaculaire du nombre d'avortements.
OK. Chez les adolescentes et jeunes adultes. Oui.
Et notamment depuis que les infirmières scolaires prescrivent la pilule, depuis que les pharmaciens peuvent la donner sans trop de restrictions. Mm-hmm. Et depuis que, il semble que quand une femme subit maintenant un avortement, on lui propose instantanément de mettre un stérilet également.
Une pierre deux coups.
En fait, d'une pierre deux coups. Et que tout ça, ça a fait beaucoup diminuer le nombre d'avortements. Parce que je t'avais dit que moi, quand je vois que le nombre d'avortements continue,
mm-hmm.
ça me dit qu'on a raté notre mission de contraception. Or, ils me disent, garde,
On progresse.
Les chiffres nous disent que la contraception gagne du terrain.